nous allons lire le chapitre 21 de l'Apocalypse, et lire au verset 20. Enfin, il y a beaucoup de pasteurs, si je suis défaillant, ils finiront le séminaire. Vous n'avez qu'en parler du choix. Puis, un des sept anges, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vaincre, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Nous savons que ce dernier chapitre que nous venons de lire, nous apportant la révélation de la nouvelle Jérusalem, c'est la dernière vision qu'aura l'apôtre Jean. Et nous découvrons que cette vision, ça changera bien, cette vision, il l'a eue du haut d'une grande et haute montagne. Dieu l'a fait monter. Et c'est de là qu'il a pu contempler l'héritage final et éternel de la nouvelle alliance. Mais en pensant à l'Ancien Testament, j'ai remarqué quelque chose avec Moïse. Dans le livre du Deutéronome, il est dit « Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. » C'est la dernière vision de Moïse. Et elle a lieu sur une montagne. Et c'est là que l'homme de Dieu a pu contempler l'héritage terrestre et passager de l'ancienne alliance. Et c'est d'une haute montagne que l'apôtre Jean va contempler l'héritage de la nouvelle. Et il y a quelque chose là que nous aurons l'occasion de méditer ultérieurement. J'aimerais commencer avec vous ce matin à découvrir le caractère de la nouvelle alliance. Et comme c'est nous, nous réfléchirons au caractère spirituel que Dieu attend de chacun de nous. Tout d'abord, au verset 2, nous lisons « Et je vis descendre du ciel. » Voilà, nous disions que Moïse a eu la révélation de l'héritage terrestre du peuple de Dieu depuis une haute montagne, et que Jean a eu la révélation de l'héritage éternel depuis une haute montagne en vision. Et que nous reviendrions sur cette pensée ultérieurement. Et nous avons dit que nous commencerions aujourd'hui à voir le caractère de la nouvelle Jérusalem. Parce que, encore une fois, ce caractère doit être en nous. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. La première chose qui apparaît dans notre Bible, nous avons le livre au verset 2 du chapitre 21. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et au verset 9, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Nous le savons, l'Écriture, à de multiples endroits, désigne Jésus comme l'agneau, l'agneau de Dieu. Est-ce que nous voulons ce matin réaliser l'importance de notre vocation? Nous sommes destinés à être l'épouse de l'agneau. Et plus nous aurons la notion spirituelle de qui est Jésus, plus nous nous dirons qu'il faut que nous soyons dignes de lui. Essayez de laisser le Saint-Esprit vous remplir et vous faire sentir qui est Jésus. Et par conséquent, qui doit être son épouse. Et à partir de là, je vais me dire, sur le plan personnel, mais ma vie doit être une vie chrétienne de qualité, excellente. Elle ne peut pas être médiocre. Elle ne peut pas être bâclée. Elle ne peut pas être faite de compromis. Je suis destiné, avec une multitude innombrable, à être la femme de l'agneau. Il faut que ma vie soit digne de Jésus. L'ange avait annoncé à Jean qu'il lui montrerait l'épouse. Il le dit, et nous l'avons lu. Et ce qui m'étonne, c'est que juste après, le verset juste après, il lui montre une ville. J'aurais attendu qu'il lui décrive une femme, qu'il lui décrive la beauté d'une épouse. Il dit, je vais te montrer la femme de l'agneau, et j'envoie une ville. Parce que la ville et l'épouse, je le répète ce matin, ne font qu'un dans cette révélation de l'Église de l'Apocalypse. La nouvelle Jérusalem est à la fois une ville et une personne. Nous avons perdu du temps avec les micros, mais je vais prendre le temps ce matin de parler tranquillement de ce seul point. On aurait pu en parler d'autres, mais on va s'arrêter sur celui-là. Pour mieux comprendre la nouvelle relation de Christ avec les siens dans l'éternité, parce qu'il y aura bien une nouvelle relation entre Christ et nous dans l'éternité, il faut se souvenir des trois images que le Nouveau Testament emploie pour parler de l'Église. La première image que le Saint-Esprit emploie dans le Nouveau Testament pour nous parler de l'Église, c'est le corps, notre corps. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va se servir de cette image pour nous faire comprendre qui est l'Église et son fonctionnement. Et il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et quand nous comprenons le fonctionnement de notre corps, nous comprenons le fonctionnement de l'Église. Nous sommes membres les uns des autres. Ce n'est pas le moment pour moi de parler en détail là-dessus. La seconde image employée par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église, c'est le temple. Le temple du Saint-Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, l'église, en lui, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et la troisième image employée par le Saint-Esprit pour nous parler de l'Église, c'est l'épouse. Au chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En attendant les noces, nous sommes pour l'instant la fiancée. Paul disait aux Corinthiens, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le corps, le temple, l'épouse. Mais quand nous considérons l'Apocalypse, le dernier livre de la parole de Dieu, les temps de la fin et l'éternité qui est devant nous, cherchez bien. Vous ne retrouverez jamais l'Église comme corps de Christ. Vous ne retrouverez jamais l'Église comme temple du Saint-Esprit. Mais le livre de l'Apocalypse nous parle de l'Église comme de l'épouse. Désormais, l'Église sera exclusivement l'épouse de Jésus-Christ. Je vais creuser avec vous cette pensée-là. L'Église, corps de Christ, ça c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Jésus en est la tête. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, après nous avoir dit que Dieu a élevé Jésus, il nous est dit qu'il l'a donné littéralement pour tête suprême à l'Église, qui est son corps. Suivez-moi bien. L'Église est le corps de Christ. Christ en est la tête. Il est au-dessus d'elle. Et c'est lui qui commande. Pour notre corps, tout part de la tête. C'est là que se situe tout le commandement pour le corps. Le corps ne fonctionne pas par les pieds. Tout s'organise là, au fond, au niveau de la tête. Et Jésus est au-dessus de son Église, qui est son corps. L'Église, temple du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui aussi. Et j'ai lu où j'ai cité pour vous il y a quelques instants ce verset de Paul, où il nous est dit que Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'il est le fondement initial de l'Église. Et à ce titre, Christ est la base de l'Église. Il est au-dessous de l'Église. Non pas inférieur, mais il est au-dessous comme fondement. Maintenant, je rassemble les deux images. Quand l'Église est le corps, Christ est au-dessus. Quand l'Église est le temple, Christ est au-dessous. Et nous sommes les deux à la fois, le corps et le temple. Christ est au-dessus et il est au-dessous. Qu'est-ce que je veux dire? Il est à la fois en haut et à la fois en bas. Il tient l'Église de haut en bas. Il tient l'Église de bas en haut. Et c'est pourquoi, ici, dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse, en plein milieu de cette révélation de la Nouvelle Jérusalem, Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière. Il est en haut et il est en bas. Je suis le commencement et la fin. » Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça en plein milieu de cette révélation? Mais parce qu'il tient l'Église de haut en bas. Et c'est pourquoi il a osé dire « Je bâtirai mon Église. »
Amen.
Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour faire écrouler l'Église. La véritable Église va tenir jusqu'au bout. Parce que Christ est en haut et il est en bas. Et il tient tout dans sa toute puissance. Il est, comme il l'affirme à Jean au premier chapitre de l'Apocalypse, il est le premier et le dernier. Maintenant, comprenons ceci. Parce que l'Église est le temple du Saint-Esprit, Christ vit en elle. Et il vit en elle par son Esprit, en attendant le jour où il va établir lui-même et à jamais sa demeure en elle. Mais dans l'Apocalypse, nous ne serons plus le corps, nous ne serons plus le temple, parce que ça c'était pour la terre. Nous serons l'épouse. C'est-à-dire que dans la Nouvelle Jérusalem, Christ sera avec nous. Et il sera pour nous. En attendant l'éternité où cette relation avec Jésus va atteindre la perfection, il est nécessaire que nous comprenions cela. Je m'en vais vers une destinée où Jésus va être tout avec moi et il va être tout pour moi. Christ sera tout pour l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, au chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens, dit que lorsque toutes choses auront été soumises à Jésus, lui-même sera soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Il y a quelque chose qui m'échappe, je peux vous le dire, je peux vous le prêcher, sans bien le comprendre, sans bien réaliser toute la portée de cette vérité, mais dans l'éternité, il va régner entre Christ et nous une intimité qui dépasse tout entendement. Une intimité parfaite entre le Seigneur et nous. parce que enfin, après avoir été son corps et son temple, nous serons sa femme. L'Église est appelée la femme de l'agneau. Mais comme nous sommes en marche vers ça, je me pose alors une question, pour moi et pour toi. Qu'en est-il aujourd'hui de ta relation personnelle avec Christ?
Amen.
Je décèle un mal au milieu de votre peuple. Vous vivez à coup de réunion. Et vous vivez à coup de séminaire. Et la meilleure des choses devient pour vous la pire des choses. Au point que certains viennent passer des vacances ici. Il n'y a pas la popote à faire. C'est la grande colonie de vacances. Les gosses courent partout et cassent tout. Et on ne vient pas en réunion. Ce qui était la meilleure des choses devient la pire des choses.
Amen.
Les réunions sont indispensables. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais j'ai toujours enseigné dans les instructions préparatoires au baptême, avant de baptiser les gens, je leur ai enseigné plein de choses, mais notamment ceci. Je leur ai dit, vous entrez dans la vie avec Dieu, dans la vie chrétienne, c'est comme un train. Un train qui roule sur deux rails parallèles. Le premier rail, c'est la vie de l'Église. Il ne faut pas abandonner notre assemblée. Il faut persévérer dans la communion fraternelle, etc. Le deuxième rail, c'est votre vie personnelle avec Dieu. Lecture quotidienne de la parole de Dieu. Prière. Et les deux rails sont parallèles. L'un ne remplacera pas l'autre. Ma vie d'église ne peut pas remplacer ma relation personnelle avec Christ. Et ma relation personnelle avec Christ ne peut pas remplacer ma vie d'église. J'ai besoin des deux. Il y a là un équilibre parfait. Si je ne vis que de réunions, jamais le Seigneur pourra quotidiennement me parler, me consoler, m'amener à le contempler, à l'aimer, à entrer dans de nouvelles richesses en lisant sa parole, en prenant le temps de le prier, de lui rendre grâce, de l'adorer. Nous serons la femme de l'agneau. Alors oui, je me pose une question, je me dis chrétien. Je me dis en marche vers le ciel, vers l'éternité, mais quel est le niveau de ma relation avec Christ? Où est-ce que j'en suis dans mon intimité avec Jésus? Je rappellerai des versets que j'ai déjà cités, tellement ils sont importants dans le cadre de ce séminaire. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Il t'a appelé à la communion de son Fils, l'union avec. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jean qui l'écrit dans sa première lettre, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que j'ai dès à présent la nature, le caractère de la nouvelle Jérusalem? Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je peux dire, comme dans le début du Cantique des Cantiques, entraîne-moi après toi, nous courrons. J'ai vu certains jeunes et enfants attendre pour rentrer au restaurant. C'est impressionnant. Ils sont à l'heure. Et dès que les portes s'ouvrent, j'ai vu des petits mômes qui me doublaient. Ah, ils savaient où j'étais. Est-ce que tu as couru ce matin à la porte du restaurant? Est-ce que seulement tu l'as ouvert, la porte du restaurant, ce matin? Tu t'es levé? T'as pris ton petit déjeuner?
Je dis oui.
Maintenant, on va attendre que Valière vous donne à manger.
La vérité.
C'est bien. Mais est-ce que tu as eu un contact avec la parole de Dieu? Moi, avant d'être là ce matin, j'ai lu ma Bible. Pour moi. Pas pour vous, pour moi. J'ai prié avec ma femme. Parce que chaque jour, ensemble, nous prions une heure. Chaque jour, ensemble, une heure. Sans compter les moments personnels avec Jésus. Nous disons que nous sommes la Nouvelle Jérusalem, que nous sommes chrétiens. Vous allez pouvoir me racheter une montre aussi. Que nous sommes chrétiens, que Jésus est notre Sauveur, nous l'aimons, nous le chantons, mais nous devrions courir à son rendez-vous comme les fiancés courent à leur rendez-vous. Il est notre fiancé. Il y a là un sérieux point de réflexion. La femme de l'agneau. Et puis je vous laisserai une seconde pensée dans ce chapitre 21 de l'Apocalypse. Vous voyez, on avance tranquillement. C'est au verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. La nouvelle Jérusalem sera transparent. D'ailleurs, j'ai remarqué dans l'Apocalypse, tout ce qui touche Dieu est transparent. Regardez au chapitre 4, verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Devant le trône de Dieu, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au chapitre 15, verset 2, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, ce sont tous les héros de la grande tribulation, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer du verre, ayant des harpes de Dieu. Transparente comme du cristal, cela signifie que la nouvelle Jérusalem va être d'une pureté absolue. Une pureté absolue. La parole de Dieu insiste beaucoup sur la pureté finale de l'Église. Aucune trace en elle de souillure. Aucune trace en elle de mensonge. De saleté à quelque niveau que ce soit. Et en attendant ces choses, l'Épître aux Hébreux m'avertit et elle me dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous avons aujourd'hui des doctrines farfelues qui déferlent dans l'Église, notamment celles où l'on tord le sens des Écritures et on parle de prédestination. Quoi que tu fasses, tu vas être sauvé. Et quoi que tu fasses, tu vas être perdu. Parce que Dieu a décidé les choses ainsi. Mais qu'est-ce qui pond des âneries pareilles? La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a mis une croix sur le Golgotha et il a donné son Fils, non pas pour que soient sauvés ceux qu'il voudrait bien sauver, Mais il est dit que Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand j'aurai été élevé de la terre, et il parlait de sa mort sur la croix, j'attirerai, non pas ceux que mon Père a prédestinés, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors vous allez me dire, oui, mais Valière ou Paul, je ne sais pas comment vous m'appelez, dans l'intimité. S'il attire tous les hommes, dont je sais que tous ne seront pas au ciel, j'attirerai. Vous avez vu comment ça se passe entre l'aimant et la ferraille de fer, la limaille de fer. Vous avez de la limaille de fer sur une table, vous passez un aimant. Paf. La limaille est attirée vers l'aimant. Vous mettez la limaille de fer sur la table, vous amenez un aimant et vous mettez une grosse planche de bois entre l'aimant et la limaille. Rien ne se passe. La limaille reste avec son pouvoir d'être attirée par l'aimant. Et l'aimant garde son pouvoir d'attirer la limaille. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui empêche que ça fonctionne. La croix attire tous les hommes. C'est écrit, Jésus l'a dit, je le crois. Mais entre ce pouvoir d'attraction de Jésus et cette capacité, nous, d'être attirés par Jésus, parce qu'elle y est, elle est là, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Nous mettons, où les êtres humains mettent leur planche de bois, leur impénitence, leur amour du péché, leur incrédulité, la remise à plus tard, et j'en passe. Et c'est pour ça que tous ne seront pas sauvés. Non pas parce que Dieu prédestine les uns au ciel et d'autres à l'enfer, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? C'est pas mon Dieu. Mais parce que l'être humain ne se laisse pas lui attirer et il ne se laisse pas sauver. Le reste, ce n'est que de la jonglerie théologique absurde. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que là-bas, la nouvelle Jérusalem va être transparente, d'une pureté absolue. Ça veut dire aussi que le salut, ça se perd. Vous savez, pour venir ici, j'ai acheté mes billets de train. Qu'il naît, qu'il pleure, que le soleil brille, que j'ai mal à la gorge, une rage de dents, ou que je sois en bonne santé, j'ai mon billet en poche. Mais le salut, c'est pas ça. C'est pas un billet que tu as mis dans ta poche avec la repentance et le baptême d'eau, et quoi que tu fasses après, tu vas quand même aller au ciel. Le salut, ça peut se perdre. Et c'est là où la prédestination casse en mille morceaux. Le salut, on peut le perdre. Et on peut le perdre en devenant rétrograde, en abandonnant consciemment le Seigneur, ou on le perd parce qu'on n'a pas à cœur de se sanctifier. Moi, je vous prêche cela avec force.
Amen.
Je crois que le chrétien qui s'est engagé avec le Seigneur et qui n'en a rien à faire de la sainteté, qui ment, qui boit, qui fume, qui trompe sa femme, qui est violent, qui magouille dans les affaires professionnelles, qui jongle avec l'argent, qui ne déclare pas tout, qui magouille ici et là, c'est un chrétien perdu. Oui. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'est pas dit d'être parfait, parce que dans ce cas-là, personne n'irait au ciel, mais de marcher dans la sainteté.
Amen.
Je marche avec la connaissance que j'ai, et d'un seul coup, Dieu alors allume une petite lumière sur mon chemin. Ça, jusqu'alors, je l'ai toléré, mais maintenant, je ne le tolère plus dans ma vie. Tu l'as fait parce que tu ne le savais pas, mais tu en es arrivé à un stade où je peux te le montrer, je t'éclaire,
t'arrête. Si tu ne le lâches pas, tu te mets dans une situation de permission. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu ne lâches pas, c'est parce que tu aimes le péché. Et tu ne peux pas aimer ce péché-là et prétendre aller là-haut. C'est quelqu'un qui nous a touchés de près. Je ne pensais pas vous dire ça ce matin. Mais ça me vient dans le cœur.
Amen.
Un chrétien, il avait sa petite entreprise, à lui, de peinture. Fidèle le dimanche matin au culte. Fidèle le dimanche après-midi à l'évangélisation, nous sommes chez les sédentaires. Fidèle aux réunions de semaine. Priant dans les réunions. Un chrétien. Fidèle. Puis un jour, commençait à ne pas se sentir bien. Et en quelques semaines, il a perdu 10 kilos. Examens médicaux, cancer des poumons. Il rentre à l'hôpital. Il décline. Et le corps médical de dit à sa femme et à ses deux fils, amenez les affaires pour pouvoir l'habiller, c'est une question d'heure, cette nuit il va mourir. Et cette nuit-là, il ne meurt pas. Jésus vient dans sa chambre. Il voit Jésus. Et Jésus lui dit, je te laisse un sursis parce que tu es perdu. Et Jésus s'en va. Et le matin, il n'est pas mort. Ni le surlendemain. Et les jours passent et il va de mieux en mieux. Au grand étonnement des médecins, on n'y comprend plus rien. Et il va de mieux en mieux, au point qu'il sort de l'hôpital, il rentre chez lui, et il reprend son travail partiellement. Mais cette phrase de Christ, tu es perdu. Tu es perdu. Alors il réfléchit, et écrit une lettre, pour demander pardon, passe un coup de fil pour une petite réconciliation. Et progressivement, règle ce que nous pourrions appeler, nous, des petites choses. Un grain de sable, mes frères, mes sœurs, un grain de sable, j'en aurais un, vous ne le verriez pas, je le laisserais tomber, vous ne le verriez pas, et vous ne l'entendriez pas. Et pourtant, la Bible dit que le sable est lourd. Parce qu'un grain, plus un grain, plus un grain, pour celui qui veut, qui prétend aller dans la nouvelle Jérusalem, ça fait lourd. Et pour celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, c'est pas possible. Parce que sa femme sera comme du cristal, une pureté absolue. Alors il met tout en ordre. Lui qui venait dimanche matin, dimanche après-midi, en semaine, qui priait à voix haute et qui était perdu. Il met de l'ordre dans sa vie. Et puis quand il a mis de l'ordre dans sa vie, il a été à nouveau pas bien. Il est rentré à l'hôpital et Dieu l'a repris. C'est terrible d'arriver à ce point de réflexion. Mais dans notre Occident, dans nos églises d'Occident, aujourd'hui, je vous le dis, ça n'engage que moi, c'est enregistré, ça ira partout, ça m'indiffère. À l'âge que j'ai, ça m'indiffère. Mais je vous dis ce que je crois, dans nos églises d'Occident, dans l'état où elles sont, beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens sont perdus. Je vais le dire. Plusieurs pasteurs
sont perdus. Ma sœur arabe de Tripoli, dont je vous ai parlé, qui a eu la vision de l'enfer, a vu des pasteurs dans les temps de feu. Alors je sais que ce matin, je ne suis pas en train de vous dire des choses qui vous amènent à pousser des cris de joie. Mais nous sommes devant la réalité de la parole.
Amen.
Vers quoi allons-nous? La destinée de la femme, de l'agneau, c'est d'être vue comme du cristal. Rien dans ma vie qui déplaise à Dieu. Je sais bien qu'il y aura encore beaucoup de choses qui déplaisent au Seigneur. Tant que je ne le sais pas, je ne suis pas responsable. Encore une fois, quand le Seigneur éclaire ma route, parce que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, à partir du moment où elle m'éclaire pour le pas suivant, c'est là où Dieu rentre en conflit avec moi. C'est même pas la peine d'essayer de faire le pas suivant, d'avancer comme si Dieu n'avait rien dit. Vous avez remarqué comment on finit nos réunions? On les finit comme si Dieu n'avait rien dit. Dieu nous a parlé, nous a remis en question, il attend une décision, et nous on termine par la prière, et on va manger. Et peut-être qu'il faudrait dire au restaurant, excusez-nous, mais il y a un changement de programme, nous ne mangerons pas. Nous aurons un jeûne d'humiliation. Nous allons déchirer nos cœurs devant le Seigneur. Je ne sais pas, c'est ce qu'il faut que nous fassions ce midi. Hein. Je n'ai pas de conduite de l'esprit à ce niveau-là, mais je lance des pistes de réflexion pour ceux qui dirigent les réunions. Parfois, nous traitons le Saint-Esprit comme rien. Il a parlé, il a parlé, et nous avons hâte qu'il ait fini de parler pour parler nous. Et comme s'il n'avait pas su bien dire les choses, on refait la prédication après, on en rajoute et on commence. Le Saint-Esprit et l'onction s'en vont. Je me souviens, nous avions éduqué l'église de Caen dans ce domaine. Nous avons appris à être sensibles aux vrais dons spirituels dans les cultes. Je dis les vrais dons spirituels. Et notre ligne, c'était quand Dieu avait dit quelque chose par un don spirituel, de s'arrêter, de réfléchir et d'aller dans le sens du don spirituel. Sinon, ce n'est pas la peine que Dieu parle. Vous avez remarqué comment ça se passe dans nos cultes? Excusez-moi cette parenthèse. Mais il y a un don spirituel et on continue après, comme si Dieu n'avait rien dit. Alors parfois, bon, c'est à ceux qui dirigent les réunions d'être sensibles au Saint-Esprit pour savoir si c'est un don spirituel ou si ça a le goût de tuyau. Mais bon, voilà. Alors dans un culte, et je suis pasteur, je ne suis pas évangéliste, le Saint-Esprit parle d'une parole prophétique et exhorte à la repentance. Il s'adresse à des inconvertis. On est dans un culte du dimanche matin. J'ai dit stop. J'ai dit aux frères et sœurs, on arrête le moment de louange. Le Saint-Esprit vient de parler, il appelle des gens à la repentance. Et j'ai pas prêché. J'ai dit, Dieu vient de vous parler. Que ceux qui veulent se convertir au Seigneur viennent devant. Et on va prier pour eux. Et ils sont venus. Certains en larmes. Sans prédication. Mais c'était le don de l'Esprit. Et ils se sont repentis ce matin-là. Parce qu'on en a baptisé quelques-uns après. C'était d'authentiques conversions. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas emboîté le pas du Saint-Esprit? Je ne suis pas sûr que les choses se seraient faites comme ce matin-là. Nous avons besoin d'être sensibles au Seigneur. Maintenant, juste quelques deux ou trois pensées très courtes et je termine. Si la Nouvelle Jérusalem va être transparente comme du cristal, ça veut dire que dès maintenant, ma vie, ça doit être ça. L'Église n'est pas un cercle fermé. L'Église n'est pas une secte opaque où on ne sait pas ce qui se passe dans les réunions, on ne sait pas ce qui se dit. On ne connaît pas l'enseignement. C'est comme quelque chose d'un peu obscur, de bizarre, vu de l'extérieur. L'Église, elle va être
transparente, visible du monde, transparente dans son caractère, transparente dans son fonctionnement. Elle est caractérisée par la lumière de Dieu. Quand je suis arrivé à Caen, il y a l'église de la salle de réunion qui donne sur une route fréquentée. Il y a une grande porte en bois, hein, deux bâtons. Et pour assurer la sécurité des locaux, on tire encore une grille devant les portes et on ferme la clé. Bon, ma journée d'arrivée, le dimanche, on ouvre les grilles et les portes sont libres d'être ouvertes pour les chrétiens. Réunion de prière le mardi soir, tout fermé. Fallait passer sur le côté de l'église, il y avait un couloir à l'air libre et il y avait une porte de secours sur le côté et tous les chrétiens passaient par là. Bon. Une fois, deux fois, trois fois. Nous nous garons un mardi soir avec mon épouse sur le parking en face le château, puisque l'église donne juste en face le château, et on descend à pied. Et je dis à ma femme, regarde, t'es un converti, on est un couple d'inconvertis, on arrive devant l'église, il y a de la lumière dedans, donc il y a des gens, et tout est fermé, les portes, les grilles, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors je suis allé voir les anciens de l'église, à pas feutrer parce que j'arrivais. Je leur dis, mais pourquoi en semaine on n'ouvre pas les portes? Ah, parce qu'on ne veut pas être dérangé. Ah, mais je dis, mais l'église elle est faite pour ça. L'église elle est faite pour être dérangée. Et à partir de là, on a ouvert les grilles, les portes, pour toutes les réunions. Et quand on a fait des nuits de prière, parce qu'on faisait des nuits de prière le vendredi soir, juste après l'étude biblique, de 10h jusqu'à 3h du matin. Ah ben c'est sûr qu'on a remué les démons. Hein. En pleine nuit de prière, on était tous à genoux, parce que à Caen, de mon temps, on priait encore à genoux, c'est comme ça dans la Bible. Jésus priait à genoux. Paul priait à genoux. Et ça ne sont pas les saints. Daniel priait à genoux. Aujourd'hui, nos églises, elles ne prient plus à genoux. Je ne sais pas pourquoi, mais la Bible, je ne sais pas. Alors on était là à genoux. En train de prier le Seigneur de tout notre cœur, et parfois la porte s'ouvrait, et des drogués ou des gars un peu bizarres se mettaient à vociférer en pleine réunion. Ah ben les chrétiens qui somnolaient, ça les réveillait. Hein. Mais c'est ça l'église.
Amen.
On est fait pour être dérangé. On est fait pour être dérangé. Et tant mieux si l'ordre est un petit peu parfois bousculé par quelques excités. Dieu a le pouvoir de les toucher et de les briser. Je crois qu'il faut de l'ordre. Et les anciens sont là pour mettre de l'ordre dans les réunions. Mais si, parfois, bah oui, on est bousculé, bah je dis tant mieux. Tant mieux. En tout cas, il faut que l'Église soit vraiment transparente. Quand nous avons eu la grâce de Dieu à Nancy d'installer l'Église dans des nouveaux locaux, nous avons acheté une supérette qui venait de faire faillite. Nous avons là-bas à Nancy un local magnifique qui a été habillé après par un architecte de nos assemblées, l'assemblée de Metz. C'est une salle magnifique. Et alors, le devant de l'église, ce sont des vitres, mais qui remontent très haut jusqu'au toit, parce que c'était un supermarché. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis aux frères, on fait rien, on laisse les vitres. Alors, il y a la rue du Placieux, parce que c'est place aux cieux en plus, c'était bien. Hein. Oui, c'est rue du Placieux, une cour, on a pu faire, parce que la salle est très grande, on a pu faire un hall d'entrée qui fait au moins la moitié de la salle où on est là. Et ensuite, la grande salle de réunion où on est à peu près 400 personnes. De l'estrade, je voyais la rue. Et de la rue, les gens me voyaient prêcher. Nous étions transparents. Je peux vous dire le nombre de gens qui sont entrés dans l'église parce qu'ils nous voyaient. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde bizarre. Alors, je parle pas pour vous, je parle en tant que sédentaire, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça d'ailleurs. Enfin, c'est un petit peu quand même. Les gens passent, ils voient des portes fermées, de tout est... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors ça, c'est un détail matériel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Église, dans son caractère moral et spirituel, doit être comme du Christ. Jésus a parlé aux pharisiens. Vous paraissez beau au dehors, juste aux hommes, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Heureusement que ce n'est pas transparent, un sépulcre. Hein. Heureusement que ce n'est pas du cristal, un sépulcre, parce que s'il y a en dessous, ce n'est pas beau. Hein. Des ossements de mort et de l'impureté. Ah, ils avaient intérêt à être pas transparents, les pharisiens. Il valait mieux qu'ils ne le soient pas. Qu'est-ce que tu as à cacher? Est-ce qu'il y a des ossements de mort dans ton cœur? Des saletés? Ça sent la mort, la décomposition? Non? Alors, tu n'as rien à cacher. Il ne faut pas que ce soit un sépulcre, il faut que ce soit une mer de verre. J'ai rien à cacher. Seigneur, je vais être transparent. Je veux que tu puisses lire clairement dans mon cœur et les autres aussi. Pas d'hypocrisie. Ah, mon frère, je suis content de te voir. Là, tu prends la barre par la main gauche et le poignard dans la main droite. Tu tires la barre devant et t'enfonces le couteau derrière dans les reins. Non, non. La nouvelle Jérusalem, elle est transparente et claire. Ce que je te dis devant, je le dis derrière, c'est la même chose. J'ai pas de langage, j'ai pas de caractère, j'ai pas deux attitudes. Et si nous revenons à ça, ou si nous travaillons à ça, nous ne serons pas loin du réveil, mes frères et sœurs. Nous ne serons pas loin du réveil des hommes vrais, des femmes vraies, des hommes de Dieu qui entre eux sont vrais, vrais, transparents. Là où le caractère de Christ peut régner. Béni soit Dieu, le moteur a tenu un petit peu. Merci au Seigneur et merci au miel du restaurant. Nous allons nous recueillir quelques instants et prions ensemble. Notre Père Céleste, nous sommes bien conscients d'être en marche vers une destinée glorieuse qui nous dépasse infiniment. Il y a là des choses écrites que nous avons du mal à réaliser, et pour cause. Nous sommes en marche vers une éternité glorieuse et nous comprenons bien que le caractère de la nouvelle Jérusalem doit être déjà manifesté en nous. Nous sommes en devenir la femme de l'agneau. Seigneur, nous avons et j'ai à m'interroger sur la qualité de ma relation personnelle avec Christ. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Je le sais, je dis l'aimer. Mais qu'en est-il de ma relation avec toi? Du bonheur que j'ai à me retrouver devant ta parole, de l'attrait que j'ai pour la prière, pour le jeûne, pour la communion avec toi. Seigneur, tu nous prépares à une relation parfaite avec toi pour l'éternité. Comment se fait-il que tant de chrétiens n'ont pas une seule minute d'une vraie relation avec toi dans leur vie? Fais-nous grâce. Relève-nous. Restaure-nous. Envoie un souffle de réveil dans nos vies, dans nos foyers. Permets-nous aussi d'être clair, transparent, comme du cristal. La nouvelle Jérusalem sera cela, comme du cristal, transparent. Seigneur, que de fois il y a eu de la dissimulation, un double visage, un double langage, des attitudes doubles. Pardon pour l'hypocrisie, pardon pour la dissimulation, pardon pour la calomnie en secret. Pardon pour les péchés de la langue. Pardon pour la médisance. nous nous sommes critiqués les uns les autres. Pardon, Seigneur, parce que nous avons vomi toutes sortes de critiques les uns sur les autres, et nous avons attristé le Saint-Esprit. Tu contestes avec nous, tu nous résistes, nous enterrons nos morts, parce que ta droite n'est plus la même. Seigneur, nous avons à nous interroger sur tes silences. Fais-nous grâce. Tu nous parles ce matin encore, dans ta bienveillance, dans ta patience, dans ta miséricorde. Que nous ne soyons pas sourds, que notre précipitation ne soit pas vers le manger, les choses de la terre, le retour demain. Il y a plus urgent que cela, Seigneur. C'est de sonder nos cœurs. Je sais bien que certains d'entre nous repartiront tels qu'ils sont venus. Pardon pour ceux qui ne sont même pas venus aux réunions. Pardonne-leur. Seigneur, je prie pour celui ou celle qui va prendre à cœur ta parole dans ce séminaire et qui va réfléchir. Non pas le temps de ces 3 jours, mais sur le long terme, il va se remettre en question. Nos ministères ont besoin de changer. Nos églises ont besoin de changer. Nos relations de couple ont besoin de changer. Nos foyers ont besoin de changer. Seigneur, secours-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia.